Allez, c'est parti pour ce nouvel entretien en voyage. Je suis à Tokyo, à Daikanyama, dans un très bel endroit où j'ai la chance que tu m'aies donné rendez-vous, Patrick. Voilà, on est sur une terrasse. J'aime bien essayer de poser un petit peu l'ambiance. C'est pas toujours évident, mais voilà. Mais tu vas nous parler justement un petit peu de d'où on est, de ta vie au Japon. Pour l'anecdote, d'ailleurs, je sais pas si je te l'ai dit, mais c'est Thomas que tu as rencontré au Nokod Summit, a priori, qui m'a dit que tu vivais au
Ah,
Japon.
d'accord, ok.
C'est comme ça, en fait, que j'ai été au courant. Donc, je fais une petite dédicace à Thomas, qui, je sais, écoute
D'accord.
un peu le
Bah,
podcast, et
bonjour
je le
Thomas,
remercie.
bonjour Thomas.
Donc voilà, ouais, c'était hyper cool, tu vois. Et donc, il écoutait, il m'a dit, ah, bah, tiens, tu vas là-bas, tu devrais contacter Patrick. Donc, voilà, donc on est là, tu as accepté qu'on se rencontre. On a déjà un peu discuté, mais voilà, je me suis dit, j'avais envie quand même un petit peu qu'on enregistre, partager un petit peu ça avec les auditeurs et les auditrices. Voilà, bah, écoute, ce que je te propose, c'est de te présenter pour commencer.
Bah, bonsoir Alexis, et puis merci de m'inviter sur ton podcast. Donc effectivement, donc je vis à Tokyo depuis 3 ans, un petit peu moins, 2 ans et demi en tant que résident et 3 ans. Donc je vis à Midorigaoka, c'est pas très loin d'ici, c'est dans la préfecture de Meguro. Donc
D'accord.
Meguro, c'est à côté là.
Ouais.
Et ouais, je t'ai donné rendez-vous ici à Daikanyama parce que c'est un endroit qui est assez sympa, qui est calme un peu pour travailler, pour discuter, qui mélange à la fois la librairie et puis aussi des cafés, etc., que les Japonais aiment bien en général pour
Si
venir.
j'oublie pas, je mettrai le lien d'ailleurs
Ouais,
dans les notes
ouais,
parce
ouais.
que je trouve que vraiment ça vaut le coup, tu vois, c'est pas du tout dans les radars touristiques.
Ouais.
Voilà, ça déjà c'est un petit cadeau pour les gens qui viennent au Japon, je pense que
Ouais,
c'est cool.
et c'est assez, pourtant, c'est assez typique et assez novateur parce que ça mélange à la fois le magasin, d'autres boutiques, les cafés,
Ouais.
et c'est des endroits qui sont agréables
Ouais.
pour se poser. T'as même le droit de prendre des bouquins, qui sont à vendre, des feuilletés, enfin, tu
Ouais,
vois.
ah ok, ouais, super.
Voilà. Et bon, comme le Japon est un pays où c'est quand même assez sécurisé, il n'y a pas de risque de vol, tout ça,
Ouais.
donc c'est ce qui permet ça aussi. Voilà.
Ouais. C'est vrai que c'est ça. Bon, il y a plein de choses, et puis on le sait, les gens, je pense, le savent que le Japon, c'est sécurisé, mais quand même, en tant que Français, ça reste toujours un peu surprenant. Tu vois, moi, c'est mon troisième voyage, et je suis toujours quand même un peu bluffé que bah, là, on pourrait typiquement avoir quelqu'un à côté de nous qui laisse son ordi, qui va chercher un café,
Exactement.
et qui revient, et puis voilà, c'est.
Alors ça, je me suis habitué pour être complètement transparent. Au début, quand je suis arrivé, j'y arrivais pas.
Ouais.
J'allais aux toilettes. Moi, je prenais mon portable avec moi parce que je me disais, je vais me le faire piquer. Et en fait, bon, avec le temps, tu t'habitues et tu fais confiance et c'est super agréable.
Ouais, ah bah, ça n'a pas la même chose. Et alors, dis-moi, qu'est-ce qui t'a. Alors, j'ai plusieurs questions, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'a amené aux outils no-code et qu'est-ce qui t'a amené au Japon. Mais on
Ok.
va commencer peut-être par les outils no-code et puis comme ça, on va
Alors,
arriver
je vais peut-être prendre le truc
au.
à
Non,
l'inverse.
d'accord,
Ouais.
vas-y.
Ce qui m'a amené au Japon, c'est que ma femme est japonaise. Donc, on s'est rencontrés à Paris, on a vécu à Paris pas mal d'années, on a eu un enfant. Et pour des raisons professionnelles, ma femme ne trouvait pas de travail à Paris. Donc, elle a décidé de revenir à Tokyo, c'était plus facile pour elle. Donc, ça, c'était juste avant le Covid, début 2020. Il y a eu toute la période du Covid. Où moi je suis resté en France et puis ouais, je faisais des allers-retours quand il y avait des fenêtres
Quand
de
c'était
tir.
possible, ouais, parce
Ouais.
qu'il y a eu un moment quand même où
Voilà.
c'était pas possible,
Il
quoi.
fallait faire un
Et puis
dossier.
c'était pas bien synchronisé en plus, parce que
Non.
quand ça commençait à se relâcher un petit peu en Europe, je crois qu'ici, c'était encore quand même bien
Ouais,
fragile.
il y avait toujours un décalage. Ouais, il y
Ouais.
avait toujours un décalage.
Puis il y avait les JO aussi, il y a toute une histoire.
Ouais,
Enfin,
c'est ça. Bah, ils ont décalé en fait les
Ouais.
JO.
Oui, c'est vrai,
Ils
mais
les
c'est vrai
avaient.
qu'on oublie, ouais, ils avaient décalé d'un an. Ouais.
Ouais. Donc voilà, donc je venais avec les fenêtres de tir et puis bon bah au bout d'un moment, au bout de 2 ans, enfin j'ai quitté mon emploi en France et je suis venu m'installer ici donc au Japon. Alors qu'est-ce qui m'a amené au no-code donc maintenant?
Ouais, et un peu savoir ton
Alors
background.
voilà, alors mon background, bon moi je suis ingénieur de formation, donc j'ai fait beaucoup de développement déjà quand j'étais plus jeune dans divers domaines et puis après bon bah j'ai évolué sur des fonctions diverses. Principalement en DSI, donc
Ouais.
dans deux boîtes principalement, donc chez PSA, maintenant Stellantis, donc Peugeot Citroën, où j'ai passé plus de 10 ans sur des fonctions diverses en DSI. Et sur mon dernier poste, j'ai travaillé chez un éditeur juridique qui s'appelle Lefebvre Dalloz.
D'accord, ouais. C'est le gros pavé, les gros pavés, non, ça,
voilà,
les codes civils,
voilà,
etc.
Voilà, voilà. Ça, c'est la marque la plus connue en France. Ah. Et effectivement, au départ, c'est un éditeur de bouquins, mais qui a évidemment complètement switché sur le numérique, ah, et qui aujourd'hui, principalement, vend de l'accès à des contenus juridiques via des plateformes, des grosses plateformes, et du logiciel aussi. Voilà. Et donc, moi, j'ai passé 9 ans là-bas, où j'ai travaillé aussi à la DSI, principalement sur toute la partie logicielle, et puis sur la fin, j'étais en charge de toute la partie solutions clients, donc les plateformes et les logiciels. Voilà. Ah, okay. Et mon boulot, c'était un boulot classique de DSI, c'est-à-dire maintenance des assets, mmh, développement de tous les nouveaux projets, des nouveaux produits, avec évidemment un travail au quotidien avec toutes les directions métiers. Voilà, pour définir les priorités, etc., les budgets, etc., voilà. Et du management aussi, bien sûr. Voilà. Alors, donc, en partant en 2022, je suis parti au Japon, c'était un petit peu un saut dans le vide.
Est-ce qu'à cette époque-là, déjà en DSI, on a un peu parlé avant, mais toi, tu avais vu un peu des plateformes low-code, no-code, est-ce qu'il y avait des discussions un peu par rapport à ça, ou toi, tu n'étais pas forcément dedans?
Non, j'étais un peu loin de ça. Alors, au niveau de mes équipes, je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, on n'avait pas intégré de low-code ou de no-code dans les... D'abord, premièrement, parce qu'il y avait beaucoup de legacy.
Ouais.
Donc, on était beaucoup plutôt sur essayer d'améliorer le legacy.
Le legacy, c'est tous les systèmes existants sur des technos, des fois un peu
exactement,
anciennes.
Des fois anciennes, des fois trop anciennes, qu'on n'arrive plus à gérer.
Ouais. On ne peut pas débrancher, pour autant.
On ne peut pas débrancher, qui se vendent bien.
Ouais.
Donc, ils font beaucoup de chiffres. Donc, ouais. Où tu te dis, si tu réinvestis dans une plateforme équivalente, dans une technologie plus nouvelle, ça coûte un bras. Tu prends un risque énorme parce qu'il faut tout migrer. Et donc, il y a un peu, voilà, une approche d'essayer d'améliorer progressivement le truc.
Ouais.
Voilà. Donc, on était plutôt là-dessus. Et donc, les technologies, elles étaient plus ou moins décidées, en fait. Voilà. Il y a juste sur les nouveaux logiciels où, effectivement, là, on pouvait faire le choix de technologies plus récentes. Mais on était plutôt sur du React.
Ouais,
okay. Sur du React en front.
Du dev pur. Et
voilà.
Des équipes techniques de dev.
Voilà, hein. Exactement. Et puis, sur
ce qui est classique, hein,
sur les backends, c'était plutôt du Java. Ou...
Je pense que même aujourd'hui, en 2025, il y a des DSI qui sont toujours là-dessus. Et ce n'est pas forcément un problème, si ce n'est que probablement que le coût de développement interne doit ralentir les projets, etc. Quoi.
C'est ça. C'est-à-dire, les tickets d'entrée sont assez élevés, même en essayant vraiment de vraiment travailler sur des MVP avec des priorités bien définies, avec des méthodes agiles, etc., pour essayer d'accélérer. T'as quand même des tickets d'entrée qui sont importants. Mais le truc, c'est que tu cherches aussi à utiliser des technos sur lesquels tu as déjà les compétences dans l'entreprise et qui te permet de mutualiser les ressources, etc. Parce que tu as cette problématique-là que si tu vas chercher des nouvelles technologies, il faut aussi que tu ailles chercher des nouvelles compétences.
Ouais.
Et que tu t'assures que tu puisses les maintenir dans le temps.
Ouais, bien sûr.
Voilà. Donc, du coup, tu restes, t'as tendance un peu à, voilà, pas forcément prendre le risque.
Ouais, bien sûr,
d'aller
ouais, chercher.
Oui,
et puis nouvelle techno, nouvelles compétences, ça dit aussi, est-ce que c'est un bon choix pérenne dans le temps?
Exactement, voilà. Et c'est vrai que dans le contexte actuel, on en parlait tout à l'heure, où tout bouge de partout, c'est quand même...
c'est pas évident.
Investir sur une nouvelle techno, c'est quand même un... Voilà, il faut...
Voilà. Et alors, du coup, toi, ta découverte, elle est venue après, quoi. Donc, t'étais déjà au Japon?
Oui, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé au Japon, donc j'ai capitalisé un peu sur mes compétences et je suis plutôt orienté du coup sur des missions de gestion de projet ou product management. Alors j'ai eu la chance de rencontrer un entrepreneur français qui a monté une société de consulting au Japon que j'ai pu rencontrer grâce à la French Tech. Qui est très installé,
à Tokyo. Ils font des choses intéressantes, des événements.
Très intéressantes.
Ouais. C'est parce que la French Tech, c'est marrant, c'est aussi un petit aparté, mais je trouve que c'est très très inégal. Enfin, sans vouloir trop juger et tout, mais bon, moi j'avais vu des endroits où.
Ouais.
Ouais. J'ai pas grand chose, hein. Franchement, enfin, espèce de, mais bon, je suis content d'entendre que, ouais,
Oui. D'ailleurs, je passe le bonjour à Frédéric, s'il va nous écouter, qui avec qui je travaille. Et donc, la base, c'est que je travaille sur des missions. Je travaille en freelance. Je travaille donc sur des missions comme ça de plus de consulting, plutôt sur des boîtes étrangères.
Ouais.
Parce que faut savoir qu'au Japon, il y a quand même la barrière de la langue qui est très forte. C'est-à-dire que le niveau d'exigence pour entrer dans les sociétés sur le japonais est très très élevé.
Ouais.
Donc pour trouver un CDI, il faut bien parler japonais. Sauf si on est vraiment un pure tech.
Okay.
Parce que là, il y a un vrai problème de
compétences,
de manque de ressources sur le marché. C'est un pays qui vieillit, il n'y a pas beaucoup de jeunes, il y a moins de jeunes qu'ailleurs. Ils ont un énorme besoin de transformation digitale et ils n'ont pas assez de compétences. Donc là, pour le coup, ils vont même chercher des gens à l'étranger, etc. Et ils sont beaucoup plus souples sur la langue. Mais voilà, là, c'est vraiment des gens un peu capés. AWS ou
Des compétences vraiment techniques est-ce qu'il n'y a pas aussi, mais c'est une question un peu ouverte, enfin un peu plus générale, mais un truc un peu culturel aussi, c'est-à-dire que quand même quand t'es pas japonais, le monde de l'entreprise japonais, moi en tout cas j'ai l'impression que je crois pas, tu vois, que je pourrais bosser dans une boîte japonaise, quoi, même si je parlais parfaitement, mais parce que les codes, je sais pas, peut-être c'était cliché, hein, tu vois, le présentéisme, je sais pas, il y a des choses comme ça, moi, qui me font un peu peur, tu vois, enfin...
Non, t'as entièrement raison, il y a un aspect culturel qui est très fort,
ouais.
Donc il y a une façon de travailler, il y a tout un tas de rituels aussi, sur la politesse, sur la façon de... sur les relations hiérarchiques aussi, c'est très très structuré, très processé, et effectivement, même, je connais pas mal d'étrangers qui ont travaillé au Japon, souvent, au bout de quelques années, ils en ont marre, ils se mettent en freelance ou ils font autre chose parce que ils ont du mal à supporter effectivement la différence dans la façon de travailler.
Ouais, j'imagine. Ouais.
Voilà. Mais bon, après t'as toutes les boîtes étrangères où quand même t'as souvent des executives qui sont des expats, donc qui parlent anglais.
Ouais. Parce que là, quand tu parles de boîtes étrangères, donc des boîtes étrangères installées ici, quoi.
Oui, c'est ça. C'est des boîtes européennes, par exemple, qui ont des filiales à Tokyo. Okay.
Et donc ça, c'est le genre de boîte pour lesquelles tu bosses.
Voilà, ouais, pour lequel là je peux bosser parce que t'as un noyau, on va dire, qui parle anglais. Et donc là je peux travailler. Je travaille aussi souvent en binôme avec des personnes. Enfin, je travaille par exemple avec quelqu'un qui est américain, enfin qui est américain et japonais. Sa mère est japonaise, donc il est bilingue. Et donc en binôme comme ça, on se débrouille. C'est-à-dire que quand il y a vraiment des échanges en japonais, c'est lui qui le fait. Et après on débrief et voilà. Et puis avec les outils de traduction aussi maintenant qui sont quand même top.
C'est vrai.
Dès que t'es sur de l'écrit, tu peux te débrouiller, quoi. Donc ce qui bloque vraiment, c'est quand tu dois avoir des meetings ou des réunions one-to-one avec des Japonais qui parlent pas anglais.
Ouais,
c'est là où ça bloque, en fait.
J'imagine. Ouais. Parce que ça, quand même, la traduction temps réel, tu vois, même moi, je vois dans le cadre de mon voyage. Donc, franchement, déjà, même quand j'étais venu la première fois il y a 9 ans, j'avais jamais eu un seul problème. C'est-à-dire qu'avec Google Translate, tout ce qui est écrit, tous les menus, les restos, je veux dire, t'as jamais de problème. Quand tu veux parler avec des gens, bon, tu leur montres. Mais il faut qu'eux puissent te répondre.
Oui.
Si, donc tu leur montres ce que tu veux leur dire, mais si eux, ils n'ont pas non plus un téléphone. Et il y a je sais pas si tu as déjà utilisé cette fonction, tu sais, Google Translate, il y a une fonction où tu as deux micros. Enfin, tu sais, tu peux faire une.
Oui.
Tu parles, ça traduit, l'autre il parle, ça traduit, etc. Mais j'ai jamais osé l'utiliser. Il y a un côté un peu. C'est un peu.
Ça ne marche pas très bien à cause de la latence.
Ouais, c'est
à chaque fois,
c'est pas une discussion fluide dans tous les cas. Enfin, on a essayé une ou deux fois au début du voyage, en fait, on voyait que c'était trop.
Même, par exemple, tu vois, dans les outils, par exemple, quand j'assiste à une réunion où ça parle japonais, même, tu vois, les outils, les traductions dans Teams, etc., il y a toujours trop de latence et au bout d'un moment, tu décroches. C'est pas encore assez performant, je pense. En revanche, ce qui marche bien, c'est d'enregistrer et de générer un transcript.
Ouais.
Et là, je suis assez bluffé, par exemple, avec la qualité des transcripts que tu peux obtenir avec ChatGPT.
Ouais, c'est ça, parce que en plus, ce qui est génial, c'est que quand tu as le transcript, tu peux le traduire.
Oui.
Et puis surtout, tu peux le résumer.
Exactement.
Tu
ne
peux pas lire tout la discussion. Et donc, tu lis dans ta langue le résumé, les points d'action, les trucs. Et ça c'est absolument
génial.
Voilà,
c'est comme ça que je travaille principalement maintenant.
Ouais, c'est intéressant.
Par exemple, là, je travaille pour une société pharmaceutique. On essaye de leur proposer une stratégie digitale. Et on fait pas mal d'interviews, donc on travaille exactement comme ça. Moi, j'enregistre tout et après, on extrait tous les infos clés, le résumé, le machin. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas l'utiliser, faut pas le reprendre tel quel.
Ouais.
Il faut vraiment l'utiliser comme un assistant ou comme un truc qui donne des idées.
Ouais.
Mais moi, j'essaie plutôt de pas le regarder, de faire feuille blanche et après, je prends contenu-là et je challenge un peu ce que j'ai fait.
Ouais, c'est intéressant. Ouais, je suis d'accord. Enfin, c'est... Ouais. Moi, je le vois vraiment comme quelqu'un qui aurait assisté à la réunion à ta place, qui te retranscrit parfaitement les choses, qui te dit, mais c'est pas lui qui dit ce qu'il faut faire après, c'est pas lui qui extrait l'intelligence de ce qui a été dit, ou là, si on parle de product management, tu comprends les éléments de l'interview,
c'est
mais après, ça reste une compétence humaine, je trouve, pour l'instant, en tout cas, à amener, quoi. Ouais.
C'est ça. Alors du coup, pourquoi je suis arrivé au Nocode, peut-être? moi j'ai toujours été passionné de technique. Hein. J'ai commencé à faire du développement assez jeune dans ma vie. Hein. Moi, j'ai commencé à découvrir les ordinateurs dans les années 80 avec les PC.
Ouais.
J'étais ado à l'époque, et donc j'ai découvert le développement en autodidacte comme ça. Donc j'ai toujours aimé ça. C'est ce qui a fait que j'ai fait ma carrière dans l'informatique. Et là, je me suis dit, quitte à te mettre en freelance, c'est aussi l'opportunité de te recentrer sur la technique.
Ouais.
Surtout qu'en ce moment, c'est un moment passionnant parce qu'il y a, c'est même trop, quoi. Il y en a trop de partout.
Et bien réveillé en ce moment, il faut faire les bons choix. Parce que ça part dans tous les sens. Ouais.
Voilà. Mais c'est super riche, c'est super intéressant. Et puis, j'ai travaillé aussi il y a plus d'un an avec un petit tour opérateur à Tokyo pour lequel on a développé en binôme, donc moi j'étais plutôt sur un rôle de product management et un développeur, un outil from scratch en no code avec pour cette personne là et du coup moi j'ai mis un peu les mains à la pâte.
Donc, ça c'était du bol,
les mains dans, c'était du zoo
ah,
en
ouais.
fait
ah oui du zoo ah oui non ouais, c'est celui là ok
ouais ouais okay. C'était du zoo et en fait je me suis dit pourquoi pas te remettre là, parce que un, t'aimes ça, deux, ça va t'ouvrir plus de possibilités en termes de boulot aussi, à la fois au Japon, mais en remote aussi,
ouais.
Avec les US ou avec l'Europe, avec la France notamment. Voilà. Donc ce que j'ai pas dit, c'est que c'est quand même pas très facile de travailler à Tokyo si tu maîtrises pas le japonais.
Ouais.
J'ai pas forcément un carton plein en termes de mission. Ça dépend vraiment des moments. Il y a des moments. Alors en ce moment, j'ai la chance d'être full, mais il y a des moments où j'ai pas grand chose. Et donc je cherche depuis le départ quand même à compléter un peu cette activité là. Voilà. Donc je me suis dit en fait c'est une très bonne façon de compléter ton activité. Et donc je me suis dit vas-y quoi. Et en fait j'ai découvert Bubble. Que j'ai trouvé super parce que je trouve que c'est le côté full stack moi qui m'a plu, c'est qu'en fait avec un seul outil tu peux vraiment faire une plateforme complète et avec une richesse quand même fonctionnelle qui est quand même super intéressante, orientée web. Moi j'avais travaillé justement avec Zoho Creator justement juste avant. Où quand même on a avec le gars avec qui j'ai travaillé, on a quand même galéré.
Ouais, ok.
Donc là c'était c'est super quoi.
Ah, ouais.
Donc je suis parti là-dessus, j'ai appris en autodidacte.
Surtout Bubble, quand on a un background technique, on retrouve tous ces éléments quoi. On retrouve les bases de données, on retrouve les différentes briques comme ça, les workflows, les trucs. Ça aide, je pense, à bien l'appréhender, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'utiliser sans background, évidemment, mais...
C'est ça, puis ce que je trouve super bien, c'est l'aspect plugin, parce que ça a été une invention. Enfin, bon, il n'y a pas que qui le font, c'est comme ça, en fait, que ta plateforme devient vraiment...
La différence, je pense que ce qu'il faut dire avec Bubble, c'est que Bubble, ça existe depuis, je pense, maintenant 14 ans, un truc comme ça. Donc, le nombre de plugins dans la bibliothèque de plugins est impressionnant, quoi.
Ouais.
Il y a des choses payantes, gratuites. Ouais, voilà, ils sont pas tous très bien faits, mais tu trouves quand même souvent ce que tu veux, quoi. Ouais. Et plus, en plus, le mécanisme, il existe que bah, tu peux faire développer un plugin ou
ouais,
développer toi-même si tu sais coder. J'imagine que peut-être maintenant, on peut faire des plugins avec ChatGPT, des choses comme ça, enfin avec de l'IA.
Ouais. Enfin, en tout cas, tu peux t'aider de...
Ouais, ou en tout cas t'aider ouais, à faire le code. En fait. Ouais, c'est ça, t'as fait un...
Tu demandes un premier squelette avec...
Okay.
Et puis après, tu l'adaptes et bon, pas tu... Bon, après, c'est pas super simple, les plugins dans Bubble, et je trouve que c'est pas super bien documenté. Ouais.
Ça, c'est l'inconvénient d'avoir commencé il y a 14 ans.
Ouais.
C'est que, voilà, c'était pas les mêmes technos, c'était pas le même JavaScript et tout, ouais.
Non, et puis, enfin, il y a pas beaucoup de... Autant leur manuel, il est... plutôt pas mal, je trouve, sur toute la partie, vraiment, enfin,
ouais,
les fonctionnalités.
Code, ouais,
mais sur le plugin, c'est assez pauvre, hein, donc il faut, ouais. Faut ramer quand même pour comprendre.
Ouais, j'en ai jamais fait, mais oui, je veux bien le croire.
Mais ouais. Mais sinon, oui, en fait, l'avantage du plugin, c'est que ça ouvre tout un champ de possibilités qui est vraiment chouette, quoi. Donc voilà, j'ai mis les mains là-dedans. Donc je me suis certifié, j'ai réussi à passer. Alors j'ai
galéré. Tu t'es formé comment, tout seul?
En autodidacte complet. Okay. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté une plateforme tout seul. J'ai développé une plateforme sur le domaine du voyage,
okay,
qui est en ligne.
D'accord.
Les gens peuvent y aller. Ça s'appelle MyTripFlow. Pour l'instant, c'est plutôt un proto. J'ai pas communiqué dessus beaucoup,
okay. Donc
j'ai très peu de trafic parce que je suis encore en train d'essayer de l'améliorer.
Ouais. C'est quoi le principe ?
Le principe, c'est quand tu voyages, en fait, tu t'organises ton voyage, tu as des infos qui viennent de partout. Tu vas avoir tes hôtels dans Booking, tu as ton billet d'avion, tu as tout ça.
Ouais.
Et l'idée de MyTripFlow, c'est d'arriver à consolider tout ça dans un planning. Qui te permettent d'avoir ton voyage dans ta poche sur ton smartphone.
Okay.
Voilà. Avec tous les infos dedans. Et la valeur ajoutée sur laquelle je travaille, c'est que, évidemment, si tu saisis toutes les infos à la main, c'est chiant et tu ne le fais pas.
Ouais,
donc, en fait, j'essaie d'utiliser l'IA pour alimenter, en fait, l'application avec tout ce que tu récupères justement à droite à gauche. Si tu fais une résa sur Booking, tu prends la résa Booking, tu la mets dans l'appli. Si tu as tes billets d'avion, tu la mets dans l'appli.
Mais par exemple, la résa, tu la mets comment ?
Alors, j'ai plusieurs possibilités. Tu peux avoir un PDF de ta résa Booking, par exemple. Donc là, le PDF, l'application est capable d'extraire les infos du PDF. J'essaye aussi, justement, c'est là où je galère un peu sur les plugins, mais le faire avec les mails. Parce que souvent, par exemple, au Japon, ils t'envoient un mail. Donc, l'idée, c'est de prendre le mail, un mail Outlook ou quoi, et de le mettre aussi dans l'appli. Donc, ça fonctionne pas très, très bien, mais ça va bientôt bien fonctionner.
Okay, ouais.
J'ai trouvé comment faire. Donc, c'est ça l'idée, en fait. C'est d'avoir justement ce planning-là. Et l'idée, à terme, c'est aussi d'avoir la possibilité, du coup, de proposer des plannings de voyage par rapport à un certain nombre de critères. Par exemple, si tu dis, j'ai envie de passer un week-end de 3 jours en Europe pour un budget 500 euros, comment propose-moi quelque chose. Ça, c'est ce que je voudrais faire. Avec la valeur ajoutée qui est par rapport à ce que j'ai déjà construit, que non seulement tu auras l'idée de voyage, mais tu auras carrément ton planning et tu pourras le compléter avec ce que tu vas rajouter et que tu vas aller chercher.
Ok.
Et l'idée, effectivement, c'est quand tu voyages, d'avoir accès à toutes ces infos-là jour par jour, etc. Voilà. Donc, il y a un potentiel assez important.
Ouais. Non, c'est cool, ouais. C'est un super moyen de progresser. C'est sympa, quoi, de faire un truc un peu sympa.
Voilà. Au début, je l'ai fait pour apprendre. Et effectivement, il y a quand même pas mal de challenges là-dedans qui fait que j'ai pu couvrir une grande partie des fonctions. Et en fait, j'ai été pris au jeu. Et là, maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. Donc, je sais pas encore comment, mais j'y réfléchis.
Et ça me fait penser à un truc que je me demandais, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer d'autres no-codeurs, peut-être des bubbleurs ici justement à Tokyo, est-ce qu'il y a une communauté, même un meet-up bubble peut-être, je sais pas. Fin...
Alors j'ai cherché, j'ai pas trouvé encore.
Ouais, okay.
Il y a des agences, justement, tu sais, dans la plateforme bubble, t'as des listes d'agences, j'imagine, tu connais bien.
Ouais.
Et j'ai trouvé tout un tas d'agences japonaises. Je les ai contactées, j'ai écrit, mais jamais eu de réponse.
Ah ouais, ok.
Non, donc,
tu l'aurais écrit en anglais, en japonais
ou... J'aurais écrit en anglais.
Ouais.
J'aurais écrit en anglais. Ce qui est étonnant, c'est que... Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que les Japonais utilisent très peu LinkedIn.
Ouais, oui, ça, c'est, on m'a dit, ouais, du coup, je savais pas, mais j'ai découvert.
Non, ils sont, bah, c'est encore, tu sais, c'est encore le système de carte de visite.
Ouais, ok.
Donc, il se passe les cartes de visite. Et puis, t'as des systèmes qui te permettent de numériser les cartes de visite.
Ouais.
Donc, c'est comme ça qu'ils construisent leur réseau. Ils n'utilisent pas LinkedIn. Donc, c'est assez difficile parfois de trouver les contacts.
Ouais, ouais. Ouais, bah, moi, j'ai cherché un peu des contacts, tu vois, et j'ai la chance que des gens me recommandent, tu vois.
Ouais.
Mais j'ai eu du mal à trouver des Japonais. Je suis tombé sur, il y a une association, No Code Japan,
oui.
Tu vois, enfin, je les ai contactés, ils m'ont jamais répondu.
Ouais.
Je pourrais éventuellement essayer de mais je l'ai pas rencontré, mais il y a, en fait, il y a deux Japonais, enfin, un Japonais et une Japonais, qui étaient au No Code Summit.
Oui. Oui.
Je sais pas si tu vois.
J'ai eu les contacts parce que j'avais écrit à une des personnes qui a organisé.
Il y en a un qui est à Yokohama, qui s'appelle Shoto. Ando, un truc comme ça. Non,
je les ai pas contactés pour être honnête, mais.
C'est intéressant. Il y a des gens partout, mais c'est vrai que c'est très difficile de les contacter, quoi. Enfin, moi j'ai trouvé que j'ai l'impression que c'est un peu sur X, Twitter, qu'ils sont les Japonais un peu sur.
On m'a dit sur Facebook aussi.
Et c'est ce qu'on m'a dit hier aussi. On m'a appris ça. On m'a dit qu'ils utilisaient en fait Facebook un peu comme on utilise LinkedIn. Et c'est vrai que ça m'a un peu surpris. Moi, je suis Facebook et donc.
Moi, j'y suis plus non plus.
Du coup, je saurais même pas où chercher. Mais donc, j'ai pas réussi à contacter. J'ai essayé. Déjà, en fait, j'ai eu du mal à chercher parce que quand tu sais pas écrire ou lire en japonais, tu sais pas.
Exactement.
Il y a des gens peut-être que si j'avais tapé, j'ai pas pensé d'ailleurs à taper No Code en japonais dans Google, tu vois, ou des trucs comme ça. Enfin, mais des trucs où juste, tu sais, je sais pas. Par exemple, j'avais trouvé. Je crois que c'était en Corée. Tu sais, je vais aller sur les sites des ambassadeurs. Tu vois, par exemple, l'ambassadeur Notion.
Ah oui.
L'ambassadrice, d'ailleurs. Donc, j'ai trouvé son site, mais je comprenais pas, en fait, où était le moyen de la contacter sur son site, tu vois, même en traduisant, machin.
Eh ben, exactement.
Et que des trucs comme ça, quoi. C'était difficile. Franchement, elle avait l'air hyper intéressante. Mais...
C'est la difficulté que j'ai eue. Je suis allé sur, justement, les sites des agences Bubble à Tokyo. Ouais. Et en fait, j'ai pas trouvé un seul nom. Le seul moyen que j'ai pour les contacter, ça a été d'utiliser le formulaire qu'ils ont mis, mais qui est plutôt à destination des futurs clients. Je l'ai utilisé pour me présenter.
Ouais.
Mais en fait, bon, ça marche pas. Donc
ouais, mais c'est non, mais c'est bizarre qu'il y en a même pas une qui ait répondu. Mais ouais, c'est quand même particulier. Il y a des choses comme ça ici, je trouve, qui sont un peu déstabilisantes. Tu vois, on sait pas forcément est-ce qu'ils ont pas répondu parce qu'ils ont pas, ils sont pas intéressés, parce qu'ils parlent pas anglais. Tu vois, il y a un peu ce truc ici que des fois, tu veux parler à quelqu'un, mais si la personne elle parle pas bien anglais, elle va préférer ne pas te parler du tout, quoi. Et ça, c'est un peu déstabilisant, quoi, de se faire rembarrer, pas méchamment, c'est toujours gentil, mais tu vois, la personne, elle te dit non, tu vois, enfin, comme ils font avec les bras, ça, et puis...
Ils ont peur de pas être...
Ouais, mais ce truc-là, tu vois, pour nous, il est un peu déstabilisant, quoi.
Oui.
Et, ou alors, un autre truc, mais bon, ça, on peut pas vraiment leur en vouloir, mais ils te parlent en japonais, enfin, tu vois, ils voient bien que je suis pas... Mais ils parlent normalement, quoi. Tu vois, vraiment. Et donc, je leur dis, non. Et puis, tu vois, ça change. En fait, ils essayent même pas de dire tu sais, en français, on parle pas bien anglais non plus, mais les français, ils vont te parler, tu sais, un peu, ou avec des gestes, ou tu sais, un peu bizarrement, tu vois. Mais pour essayer de te faire comprendre, tu vois, ou parler you, me, machin, tu vois. Enfin, et ici, non, c'est très. C'est un peu.
Alors, t'as ça, mais des fois, t'as aussi l'inverse. C'est-à-dire que. Il y a beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps qui m'ont dit, c'est que. Si t'es étranger, que tu parles japonais, ils vont te répondre en anglais.
Ah ouais?
Ouais, il y a beaucoup ça. Même des gens qui parlent très très bien, tu vois, qui sont là depuis des années, des fois, ils parlent en japonais et on leur répond en anglais, tu vois. C'est aussi un peu étonnant.
Mais là, ce que je dis, cela dit, donc là, moi, je finis 5 semaines, tu vois, de voyage, et donc je suis allé dans un endroit quand même un peu random et tout. On a toujours été hyper bien reçus.
Oui, oui.
Avec beaucoup aussi de curiosité, tu vois, mais sympa. Les gens ont toujours demandé d'où on venait, tu vois.
C'est ça.
Et en vrai, et globalement, j'étais assez surpris. C'est pas le souvenir que j'en avais gardé de mon dernier voyage qui était il y a 7 ans. Même un peu mieux nulle part, je parlais à peu près anglais, quoi. En tout cas, dans les restos, les trucs. Et surtout, vraiment, les gens, ils nous parlaient, quoi. Ils essayaient, ils étaient curieux. Ça m'a fait un peu bizarre, là, d'arriver à Tokyo, déjà un peu à Osaka, parce qu'on a été dans des endroits où on était vraiment les seuls touristes, quoi.
Ouais.
Donc, c'était un peu agréable aussi de se dire, les gens, ils étaient un peu surpris de nous voir, ils avaient un peu envie Alors que bon, bah ici, t'es un parmi 12 millions de touristes qui sont partout, c'est moins. Mais bon, c'est bien aussi, quoi. C'est un peu.
Ouais, le nombre de touristes a explosé hein, à Tokyo, c'est enfin au Japon en général. Ouais.
Apparemment. Là, je suis pas allé à Kyoto, mais apparemment, c'est devenu un peu infernal là-bas, quoi.
C'est infernal, ouais. Ouais, parce qu'en fait, bon, bah tout le monde vient une fois dans sa vie, donc tout le monde veut voir la même chose. En fait, le parcours, je ne sais plus comment on appelle ça, la Golden Route ou un truc comme ça.
Ouais.
Et effectivement, bah, Kyoto, effectivement, c'est une ville formidable, super belle. Mais enfin, c'est. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir y aller il y a déjà 10 ans. Donc, il y avait beaucoup moins de monde.
Ouais.
Et j'ai pu y retourner aussi pendant le Covid. Donc là, pour le coup, il n'y avait personne.
Ah ouais, ok, ouais, tu m'étonnes. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est une ville extraordinaire, mais bon, quand tu dois faire 2 heures de queue partout, que tu as des touristes, des trucs, c'est pas grave. Et puis, j'imagine surtout pour les gens localement, ça doit être pénible, quoi.
Il y a beaucoup de plaintes, en fait, des Japonais qui habitent sur place.
Ouais.
Il y a même des endroits, je crois, qu'ils veulent interdire. Enfin.
J'ai entendu ouais, des choses comme ça, mais je pense qu'ils ont un peu, comme beaucoup d'endroits touristiques, ils ont un peu ce tiraillement entre. Bon, économiquement, c'est quand même intéressant d'avoir tous ces gens qui viennent dépenser de l'argent et en même temps, ça dégrade un peu
c'est exactement
la qualité
ça.
De la vie.
Il y a certains touristes qui se sont mal comportés. Alors, c'est une minorité, mais bon, c'est un peu choquant pour les gens.
Ouais.
Notamment, par exemple, tu sais, il y a des geishas à Kyoto.
Là, de Gion.
Et t'as les gens qui arrivent, qui prennent des selfies sans demander la permission.
Ouais.
Des choses comme ça qui se font pas, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et les gens, ici, la politesse est quand même ultra important. Enfin,
ouais.
Tu peux pas faire, les gens font bien attention, hein, tu sais, enfin.
Ah oui, c'est clair. Non, mais c'est
ça des
que
trucs
c'est hyper
comme
agréable,
ça, ils sont hyper choqués, quoi.
Ouais. J'imagine, je comprends. Et tu vois, en plus, je trouve que les gens qui font ça, en plus, je pense que souvent, et j'imagine bien des Français ou des Européens, ou tu vois, faire ça, c'est ils tirent un peu profit justement du fait que les Japonais sont très calmes, ils disent, tu vois, ils vont pas crier et tout, quoi, tu vois.
Ouais.
Et donc, je pense que les gens, ils se permettent en plus, mais bon, peut-être j'en interprète, hein, mais bon, on connaît nos compatriotes français, tu vois, des fois, il y a un peu, t'es un peu sans gêne comme ça, ou tu vois, si tu sais que.
Oui,
on
après,
passe plein,
bon,
on tire un peu
c'est une minorité, mais il y en a qui.
Bien sûr, non, mais je.
Après, t'as eu aussi un phénomène, t'as des youtubeurs américains qui font un peu n'importe quoi, tu vois.
J'ai vu, ouais.
T'as vu
ouais.
Ouais, qui arrivent dans le métro, qui se mettent à danser, à mettre de la musique, tout ça, et qui viennent un peu agresser les gens, alors pas violemment, mais au Japon, quand tu commences à toucher les gens, tu les agresses, donc. Et après ils mettent ça en ligne, etc. Donc ça choque beaucoup les Japonais. Enfin tu sais, il y en a même qui sont fait arrêter hein, par la police.
Ouais,
etc.
J'avais vu une histoire comme ça.
Ouais.
Mais il y en avait un, mais lui il insultait les gens. Enfin
oui.
C'était vraiment un abruti.
Ouais, juste pour faire des vues sur YouTube.
Ouais. Mais ça c'est, tu vois, je trouve que globalement, moi je suis passionné de voyage depuis longtemps et en fait malheureusement les réseaux sociaux, pas Internet, mais les réseaux sociaux. Je trouve un peu abîmé, enfin, je sais pas comment dire ça un peu intelligemment, mais ça a créé beaucoup de problèmes touristiques. Par exemple, tu vois, notamment des concentrations de gens à des endroits précis, tu vois. Je sais pas, par exemple, je crois que c'est à Bali, il y a une balançoire qui est très connue. Et tu sais, t'as des millions de gens qui font la queue, tu vois, pour se prendre en photo sur le balançoire parce qu'il y a une influenceuse ou un influenceur ou je sais pas quoi qui est passé par là, tu vois.
Ouais.
Et ça canalise comme ça, tu vois, ce quartier de Gion, là où il y a les geishas. Enfin, je veux dire, c'est un truc historique. Moi, j'y suis allé, il y avait pas beaucoup de monde, il y avait des gens, mais pas. Et je pense qu'il y a dû avoir des vidéos, des choses, tu vois, il y a tout un.
Oui, oui, tu
vois. Puis au Japon et à la mode, et tu vois, il y a plein d'endroits comme ça dans le monde.
Il faut se faire prendre en photo à ce niveau, à
voilà.
Cet endroit-là.
Et c'est parce que c'est à cause des réseaux sociaux. Avant, il n'y avait pas ça, quoi, tu vois.
Enfin, c'est vrai.
Il n'y avait pas... T'avais le guide du routard, tu vois. Bon, bah, le guide du routard, t'avais des adresses. Et puis, si tu y allais, bah, peut-être t'allais te trouver un peu d'autres touristes. Mais c'était quand même rien. Et puis, les gens n'avaient pas ce même truc. C'est-à-dire que les gens ne se faisaient pas une religion de se dire « Ah, il faut que j'aille dans tous les restos du guide du routard, quoi.
Ouais. »
Alors qu'il y a des gens, ils sont fascinés par certains influenceurs. Ils disent « Ah, je veux aller là où cet influenceur s'est pris en photo » ou ce genre de choses, tu vois. Enfin, moi, je suis ça, tu vois, un peu. Et c'est un peu problématique. Après, c'est vrai que, bon, moi, je suis plus trop sur les réseaux sociaux, mais ça permet aussi, des fois, de découvrir des choses. Mais avant, dans les années 2010, par exemple, il y avait beaucoup de blogs.
Ouais.
Blog de voyage, bon, bah, tout le monde n'allait pas. Déjà, il y en avait plein. Et puis, c'était pas des stars, quoi. Enfin, c'était pas des influenceurs. Il y avait moins ce phénomène. Je sais pas comment l'expliquer vraiment. Je sais pas quels sont. Mais tu vois, il y a un truc.
Non,
le Japon subit ça fortement, quoi.
Oui, puis il y a des trucs. Enfin, après, c'est peut-être un problème générationnel. Mais moi, il y a des trucs que je comprends pas. Tu vois, par exemple, je sais pas si tu connais Enoshima. Peut-être. Bon, c'est pas très loin d'ici. Enfin, t'as une ville qui s'appelle Kamakura. Ouais. Tu sais, qui est au bord de la mer.
Ouais.
C'est un peu la, on va dire, la côte d'Azur de Tokyo, ça s'appelle Shonan. Et c'est,
ouais,
enfin, c'est toute une plage qui fait des kilomètres. Et t'as une île qui s'appelle Enoshima, que j'aime bien, à l'intérieur duquel t'as un temple. Et puis tu peux te promener, etc. Enfin, c'est vraiment très joli. Et il y a un endroit où tu arrives où tu peux regarder les couchers de soleil. T'as la vue sur le Fuji. Et quand c'est beau, c'est magnifique parce que t'as le soleil qui se couche, c'est rouge, ça colore le Fuji, etc. Enfin, moi, j'adore cet endroit. Et bon, il y a toujours plein de monde. Mais moi, ce qui me choque à chaque fois, c'est que en fait, les gens regardent pas du tout le Fuji, ni le. Ils sont tous en train de se faire des selfies.
Ils regardent leur téléphone.
Voilà, des vidéos, des machins. Enfin, tu fais bon, voilà. Et du coup. En fait, ils profitent pas du tout de l'endroit, alors que c'est un endroit où t'as plutôt envie de te poser, tu vois, tranquille, regarder
Profiter du moment.
Ouais. Alors que ça y est, ils grouillent, ils se font des photos, des machins, et en fait, ils voient rien.
Mais tu vois, ça, c'est
intéressant.
Ouais, non, mais c'est.
Mais c'est générationnel, peut-être.
Non, après, ce que je dirais quand même, tu vois, c'est que depuis très longtemps, il y a des gens qui voyagent à travers leur appareil photo, tu vois. Et notamment, c'était un peu le cliché des Japonais il y a longtemps. Tu vois, on disait, ils viennent, ils vont à Notre-Dame, ils prennent la photo. Moi, j'ai rencontré, tu vois, des gens comme ça en voyage, il y a longtemps. En fait, ils allaient dans les endroits. Je me souviens une fois, la personne, je me souviens plus, mais c'était des jeunes en plus, hein, tu vois. Il était allé, il avait pris une photo, j'ai visité l'endroit, il m'a dit, c'est bon, j'ai pris une photo, tu vois. Et parce que, limite, il va regarder chez lui après, au lieu de s'être un peu imprégné de ce truc, tu vois. Et ça, je pense que ça a toujours un peu existé. Et moi, je fais un peu des photos aussi. Mais maintenant, c'est pire parce que maintenant, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est-à-dire que tu as une raison de faire ces photos et les poster quelque part. Avant, tu les faisais pour toi, pour ta famille. Maintenant, les gens, ils les mettent sur Insta. En plus, ils les mettent tout de suite. Tu vois, donc ça, peut-être ce selfie là qu'ils ont fait au coucher de soleil. Parce que tu le fais pour toi, mais aussi pour dire aux gens, regardez, j'étais à ce coucher de soleil. Et je suis d'accord avec toi, ça a multiplié cet effet qu'il y avait avant. Quoi.
Il se met à pleuvoir, il va falloir peut-être qu'on s'abrite.
Ah merde, ouais, c'est vrai, effectivement.
On peut peut-être bouger là.
Ouais, comme ça, on va se décaler un petit peu. Merde. Alors, il faudrait que je fasse un petit montage de ce... Peut-être que je laisse ça comme ça. Attends. Est-ce que tu veux qu'on aille à l'intérieur, peut-être?
Ah, tu veux aller à l'intérieur?
Ou non, enfin, après, peut-être juste sinon, on peut finir.
Ouais, on peut finir.
Je pense que là, ouais, on va finir.
Ça va, là
Attends, tu sais ce que je vais faire? Je vais me mettre...
On peut se mettre comme ça.
Ouais. Non mais tiens, sinon mets-toi là, moi je me mets là. Okay. On va pas la chaise, c'est pas grave.
Ouais, sous la.
Et bien voilà, cette petite discussion super intéressante, un peu interrompue par la pluie. C'est l'avantage des micros sans fil, c'est qu'on peut continuer tout en.
Alors c'est le printemps au Japon, cas comme ça.
Ouais, mais tu me disais, alors l'hiver il fait froid et il peut neiger, l'été il y a les typhons et il y a de la pluie.
Ouais, en fait, sur les saisons, t'as l'hiver qui commence à peu près mi-décembre jusqu'à, allez, on va dire mi-fin février, mi-mars à Tokyo. Hein, attention, hein, parce que tu sais, le climat change beaucoup en fonction des régions, mais à Tokyo c'est comme ça. Donc là, il fait froid, mais l'hiver est très agréable à Tokyo parce que c'est très ensoleillé.
D'accord.
Donc c'est sec, ensoleillé. Enfin moi j'adore. Et c'est froid. Ouais, la nuit ça descend autour de zéro, mais dans la journée c'est 5, 10. C'est totalement, c'est très bien. Après t'as le printemps, donc là c'est en ce moment. C'est variable. C'est un peu comme en France, tu vois, t'as des moments où il pleut, voilà. Ça c'est jusqu'à peu près à fin mai. Et après en juin t'as la saison des pluies. Là, ça devient très humide et il pleut beaucoup,
ouais.
Donc c'est pas très agréable.
Un peu tropical en plus, quoi. Enfin, c'est les grosses pluies.
Voilà, un peu tropical. Ça est jusqu'à peu près mi-juillet et après tu bascules sur l'été et là c'est ultra chaud, très difficile à supporter.
Ouais.
C'est une moyenne de 35 degrés, quoi,
okay.
Avec 100% d'humidité. Donc voilà, c'est pas très agréable. Et ça, c'est jusqu'en. Alors, maintenant, c'est jusqu'à. Ah, c'est pas très. C'est jusqu'à peu près fin septembre maintenant.
Ok.
Voilà. Et puis après, t'as l'automne, qui, à mon avis, est la plus belle saison, en fait, au Japon. Où là, c'est un temps, il fait 20 degrés, il fait beau.
En plus, il y a un peu des jolies couleurs aussi, non? C'est moins connu que là, les.
Ouais.
les sakura, enfin les cerisiers, oui. Machin, mais il y a aussi les, un peu rouge, ou je sais pas, enfin les arbres.
C'est ça, c'est ça. Ouais, les momijis s'appellent.
Ah, ouais. Okay.
Ouais, ouais, c'est très beau, ouais. Ouais. Dans la, si tu te balades dans la montagne ou dans la forêt, sur cette saison-là, c'est vraiment top. Ouais.
Bah écoute, une petite dernière question avant qu'on,
oui.
qu'on soit
ouais, inondé par, par l'eau. Devient, ouais. Ouais.
C'est quoi ton truc préféré à faire à Tokyo ? Ou peut-être au Japon peut-être. Tu nous as dit, il y a peut-être ce coucher de soleil.
Mon truc préféré, bonne question. Alors, moi, j'aime bien la rando. Je suis passionné de rando. Ouais, en fait, j'en fais beaucoup. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est prendre mon sac et aller me balader un peu dans la région.
Ouais.
Parce que Tokyo, ce qui est chouette, c'est que c'est près de la mer.
Ouais.
C'est pas loin de la montagne. Une heure, deux heures de train, t'es au milieu de la montagne. Donc, voilà, c'est ça mon...
Ok. Trop bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup.
Ben, je t'en prie, c'est moi qui te remercie.
On va aller se réfugier maintenant.
Ouais, ouais.